Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On a tout un programme pour vous ce matin. Je vais vous demander tout à l'heure en deuxième heure d'émission, est-ce que quand si vous achetez des billets de loto, vous avez vu là, les millions là qui sont attirés, est-ce que vous misez sur la loterie pour vous enrichir? Je vous le rappelle souvent au Québec, c'est presque pathétique, mais c'est ça pareil. Ça fait des années que finalement notre rêve numéro un, c'est de gagner à la loto. C'est ça notre rêve numéro un. On a les rêves qu'on peut se payer. Il faut croire qu'un petit 2 sur un billet de loterie, ça peut faire la job. Toujours est-il qu'il y en a qui dépensent chaque semaine de façon très régulière sur des billets en espérant pouvoir un jour gagner le gros lot. Mais qu'est-ce que ça dit de nous, ça? Alors, on en parlera tout à l'heure avec des invités. L'intimidation à l'école, il y a une campagne qui a débuté du ministère de l'Éducation. Je voulais à tout prix en reparler parce que on pense que, parce qu'il y a eu une loi il y a 6 ans qui a fait en sorte de donner un certain cadre dans nos écoles, ben, c'est réglé. Or, c'est pas le cas du tout. Encore ces jours-ci, il y a une mère qui a mis une vidéo de son enfant de 8 ans, un petit garçon qui rentre de l'école en pleurs puis qui dit, j'en ai assez qu'on me tape dessus, qu'on n'arrête pas de rire de moi, qu'on me frappe, ils me font mal, maman. Moi, mon cœur de mère, là, se casse en deux quand j'entends un enfant de 8 ans pleurer comme ça. Comment voulez-vous que, si on règle pas le problème d'intimidation à l'école, comment voulez-vous qu'on dise à nos jeunes, il faut que t'aimes ça, l'école? Comment voulez-vous qu'ils aiment l'école? Imaginez-vous, vous êtes au bureau, tous vos collègues vous font suer, vous tombent dessus, ça vous tente-tu de retourner le lendemain matin? On a un gros problème, on va en parler tout à l'heure. Mais notre première heure d'émission, on va parler d'entrepreneuriat. C'est un sujet que j'adore parce que chez nous, l'entrepreneuriat, c'est un peu une histoire de famille. Et je pense qu'il y a peut-être une partie aussi des entrepreneurs du Québec qui l'ont dans leur ADN. Mais en même temps, ça se développe. Je pense que ça se développe. Il y a l'exemple parental. Tu vois tes parents travailler à leur entreprise. Tu as peut-être envie de partir la tienne. En tout cas, quand on regarde les chiffres au Québec, ce qui est très rassurant, c'est qu'on se rend compte qu'on a la fibre entrepreneuriale. En tout cas, les jeunes Québécois, il y en a plus d'un sur quatre qui a envie de se partir une entreprise. C'est fabuleux, c'est même plus qu'ailleurs au pays. Là où c'est ça mérite qu'on s'y attarde, c'est que finalement, on est plus enclin à vouloir lancer une entreprise, mais en même temps, on sort vite aussi de l'entrepreneuriat. On regarde ça, puis on se dit, oups, il y a aussi plus de 25 % des jeunes entrepreneurs qui finalement ferment leur entreprise avant même la première année, avant même la fin de leur première année d'activité. C'est comme l'école, finalement. On y va, mais on décroche plus vite que les autres. Alors, on va en discuter avec nos invités que je vous présente tout de suite. On a la chance d'avoir deux ex-dragons avec nous. Il y a Serge Beauchemin qui est avec nous, ex-dragon. Mais on a toujours une dragonne quand même. Daniel Henkel aussi. Je t'avais sorti du jeu. Excuse-moi, Daniel. Serge, investisseur, mentor. Merci beaucoup d'être là, Serge Beauchemin.
Avec plaisir.
Daniel Henkel, fondatrice présidente des entreprises Daniel Henkel. Merci d'être là, merci. Qui a écrit plusieurs livres, qui fait des conférences. Frédéric Gariépi, président du conseil d'administration du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, vice-président développement chez Medifis, qui fait merci. De l'immobilier médical.
Effectivement. Donc, on construit des CHSLD, dont on parle beaucoup dans les médias ces temps-ci. Et puis, on fait aussi des complexes médicaux, donc des bâtiments médicaux, commerciaux, d'une dizaine de professionnels de la santé différents.
C'est payant?
On fait pas mal.
C'est bon.
Mais surtout, on offre des bons services à la population. Tu sais, au bout de la ligne, il y a faire de l'argent, il y a être passionné par ce qu'on fait. Uh-huh. Puis, je pense qu'un vient après l'autre.
Voilà.
Donc, on fait ce qu'on aime. On fait du bien, puis l'argent vient.
J'aimerais vous entendre à tour de rôle là-dessus. Est-ce que la fibre entrepreneuriale, on peut sentir quand on l'a? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle on grandit? Est-ce qu'on nous l'inculque? Comment ça marche, Daniel, pour savoir si on l'a, cette fibre-là?
Mais je crois que la fibre entrepreneuriale, oui. Tu dois l'avoir et pour l'avoir, il va falloir que tu sois testé. Dans la vie, on est testé. On peut aussi être à l'emploi de quelqu'un, mais de voir, par exemple, qu'on est régulièrement en avant des idées, qu'on prend des projets à bras le corps, qu'on est très innovateur, qu'on prend des risques aussi, parce que c'est beaucoup la prise de risque. Mmh. Et c'est aussi la confiance en soi. Je crois que c'est pas d'être très confiant au point de devenir,
arrogant.
Arrogant, tout à fait, parce qu'il y a quand même une très fine, une fine ligne là-dessus. Mais c'est surtout de dire, est-ce que moi j'aime le risque? Est-ce que j'ai une tolérance au risque? Et est-ce que j'ai envie de partager ou de participer à quelque chose de plus grand que moi? Parce qu'en bout de ligne, je crois que c'est ça, l'entrepreneur. C'est avoir le goût de faire différent, mais de le faire aussi à son rythme.
Ouais. Mais la tolérance au risque, c'est très très important, oui. Parce que si ça t'empêche de dormir, Serge, t'es peut-être mieux de pas d'aller là-dedans. Là.
Mais c'est clair, pour être entrepreneur, il faut avoir le goût de l'aventure. C'est à la base, c'est le goût de l'aventure. Mais je dirais que la grande question, c'est est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu des deux. C'est un peu comme le hockey. Vous savez, au Québec, les garçons jouent souvent au hockey quand on est jeune. Est-ce qu'on a tous en soi le talent et l'énergie ou le gift, là, les dons pour se rendre au niveau de Sidney Crosby? Probablement pas, mais on est tous capables de jouer au hockey. Et l'entrepreneuriat, on a tendance à voir dans la même catégorie tous les entrepreneurs. Vous savez, il y a des entrepreneurs qui ont des entreprises et qui vont avoir des entreprises de 2, 3, 4 employés toute leur vie et que c'est une passion pour eux. Ils vivent très bien de leur art ou de leur travail et de leur petite entreprise. Et on les appelle entrepreneurs tout aussi bien que les gens qu'on admire, qui sont les Alain Bouchard ou les frères Lemaire ou ce type d'entrepreneurs-là. Alors, il n'y a pas de dénonciation, de démarcation plutôt entre les niveaux d'entrepreneurs. On a tendance à dire, est-ce que je vais être un entrepreneur ou est-ce que je peux être un entrepreneur? Est-ce que je peux arriver à... Moi, je dis, ben oui, tu sais, partir une business, ça peut être un travail de deux personnes, trois personnes. T'es en affaires toute ta vie puis tu fais de très belles affaires aussi. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir le niveau d'Alain Bouchard pour s'appeler entrepreneur et de rêver d'avoir une entreprise.
Oui, mais tu sais, ton analogie avec le hockey, si tu pars pas ça à 4-5 ans...
C'est ça.
Tu vas patiner longtemps, là, tu sais.
Ben oui, puis non, parce que on peut partir plus tard au hockey, on jouera pas dans la Ligue nationale, on va jouer au hockey.
Ça.
Alors, on peut être entrepreneur à 40 ans, puis peut-être qu'à 40 ans, c'est un peu tard pour rêver d'être Alain Bouchard, là, parce que ça se fait pas en 12 ans ou en 10 ans, une carrière comme ça. Mais définitivement, qu'on peut partir plus tard, sur le tard en entrepreneuriat et se faire une belle business, là.
Ouais.
Vous savez que les business américaines, il y a une étude récemment qui a été publiée, et on a regardé les entreprises qui ont duré plus de 10 ans.
Ouais.
Et on a regardé quel âge avaient les fondateurs de ces entreprises-là qui ont passé le cap des 10 ans. Et la grande majorité avait, en moyenne, en fait, la moyenne était de 42 ans.
C'est ça.
Alors, c'est pas l'âge des jeunes, l'entrepreneuriat.
Mais tu sais, mais c'est pas vieux non plus, 42 ans. Il va falloir qu'on change nos modèles de référence en termes d'âge. Là, parce que si on meurt à 84, ça veut dire qu'à 60,
on peut.
T'es encore jeune, finalement. T'es pas vieux.
Absolument.
Là. Donc, on devrait pas avoir le mot retraite tout de suite qui nous vienne à la bouche. Frédéric Gariépy, vous, vos grands-parents maternels et paternels étaient des entrepreneurs. Donc, est-ce qu'on peut dire que la fibre entrepreneuriale, ça coulait dans la famille? Vous l'aviez ou tricotiez avec?
Oui, c'est difficile à dire parce que je peux pas dire que j'étais l'enfant qui a toujours rêvé d'être entrepreneur, qui en a parlé dès son jeune âge. Par contre, en étant exposé à travers grands-parents, tantes, oncles, entourage qui avait de l'entrepreneuriat, mais c'est certain que j'étais ouvert à ça. La journée où j'ai eu une opportunité à 18 ans de fonder une entreprise, ben je l'ai prise parce que j'avais des modèles autour de moi.
À 18?
Oui, quand même.
Wow.
Plus la même entreprise.
C'était quoi que tu as parti à 18?
Une entreprise en évaluation immobilière. Fait qu'on a été pendant 10 ans quand même dans cette entreprise-là. On a même fait une fusion d'entreprise avec un concurrent. Je peux dire que ça, c'était mon université à moi. Donc, si je reviens à fibre entrepreneuriale, c'est pas de dire que tu l'as ou tu l'as pas, ça se développe, mais il faut être exposé. Mm-hmm. La journée où un jeune en entend pour la première fois à 20 ans, mais peut-être qu'il va se lancer à 40 ans. Puis ce qui est correct aussi, là, c'est pas un jugement. Mais la journée où tu en entends parler à 5, 10 ans, déjà, tu es exposé. Mais je pense que tu es enclin à tomber là-dedans quand tu vas voir une opportunité se présenter.
Ouais.
Mais je dirais surtout que posons-nous les bonnes questions, Isabelle. La fibre entrepreneuriale, oui, mais ça veut pas dire que parce que tu as une fibre entrepreneuriale que tu peux être entrepreneur.
Que tu vas réussir.
Non, mais tu peux, par exemple, être un excellent intrapreneur.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment de se poser la question, encore une fois, sur nos attentes personnelles, nos besoins personnels.
Tu as dit intrapreneur?
Intrapreneur,
c'est-à-dire, explique tout ce que c'est.
Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui va porter des projets à leur aboutissement. Moi, je suis une entrepreneur, je suis une visionnaire, je suis un leader, comme la plupart des entrepreneurs qui sont restés et qui prennent du risque et qui ont la couette, comme on dit, assez dure. Mais je peux absolument rien faire si j'ai pas autour de moi des personnes qui vont m'accompagner au quotidien pour faire aboutir mes projets. Ce sont des intrapreneurs. Donc, les gestionnaires, les CFO, ce sont des intrapreneurs. Donc, des gens qui sont peut-être pas tout à fait capable ou leur volonté n'est pas de prendre des risques comme un entrepreneur ou d'être dans l'eau chaude 24 heures sur 24, mais par contre, de faire arriver les rêves et les visions de ces entrepreneurs, ben c'est ça. Donc, faire quand même une différence.
Mm-hmm. Serge Beauchemin?
Ben, j'allais faire du chemin un peu sur les propos de Daniel en disant que pour l'entrepreneurship, c'est souvent vu comme l'entrepreneur qui est au sein d'une organisation, qui doit porter un projet, mais qui ne doit pas porter les risques du projet. Vous voyez la grande différence entre l'entrepreneur et l'intrapreneur, c'est qu'il est employé d'une entreprise, il a démarré un spin-off en anglais, là, donc un SMA, je pense, en français, donc une nouvelle division, il ne porte pas le risque financier, il doit recruter l'équipe. Il fait le même travail, finalement, que l'entrepreneur, mais il n'y a pas
mais
de risque
personnel. Mais ce
n'est pas son argent. Pas son
argent.
Ouais. Alors que l'entrepreneur ben, rajoute cette dimension-là à l'équation, qui c'est son argent, son temps.
Et ça, tout à l'heure, j'ai commencé l'introduction du sujet en rappelant qu'au Québec, on était vraiment... quand même, on l'avait la fibre entrepreneuriale. Quand on regarde ça, on a plus de gens. Et puis là, je fais référence à un rapport de l'année dernière de deux chercheurs de l'Institut de recherche sur les PME à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où on nous disait la fibre entrepreneuriale est plus forte au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Mmh. Elle est en progression depuis 5 ans. Peut-être que comme ex-dragon, vous savez que vous avez sans doute contribué à faire en sorte que... Bon, même si le modèle... on peut en parler longtemps, là. Fais-moi ton pitch en 5 secondes ou en 5 minutes. Je vais voir si j'investis. On pourrait discuter de ça, mais c'est pas le propos aujourd'hui. Mais n'empêche que quand on regarde ça, il y a quand même 25% des Québécois qui disent, moi, je veux lancer mon entreprise. Je veux me lancer en affaires. Alors que dans le reste du Canada, c'est 22%. C'est un peu moins. Le problème, c'est que les entrepreneurs québécois, toujours selon la même étude, quittent plus souvent le monde des affaires que les autres entrepreneurs au pays. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est attiré, on a des idées. Mais quand on se met les deux mains dedans, là, on fait comme « Oups, finalement, c'est peut-être pas pour moi ou je suis pas capable. » Et on parle de sortie entrepreneuriale sans continuité d'activité. Puis c'est même 3/5 qui sortent avant même d'avoir fait un an d'entrepreneur. Et moi, je pense qu'une
Mais il y a des raisons à
oui,
ça.
Oui, et une des raisons, est-ce que c'est pas l'argent, Serge? Oui.
Ben, j'ai l'impression qu'il y a une culture différente au Québec, particulièrement dans le fait qu'au Québec, on aime beaucoup gagner, puis on n'est pas très patient, on n'est pas très tolérant avec la défaite ou les revers.
On pointe du doigt à ceux qui échouent.
Ouais, exactement. Culturellement, vous savez, les Canadiens perdent 3-4 matchs, pouf, on arrête d'aller les encourager. On aurait probablement déménagé le club, ça avait été Toronto ici, là. Alors, on n'est pas très patient avec l'insuccès ou avec les obstacles sur la route du succès. Alors,
pourquoi?
J'ai l'impression que c'est probablement culturel. J'ai l'impression que ça vient du... Vous savez, le francophone québécois, donc le francophone canadien, est relativement jeune dans des carrières, je dirais, dans les carrières professionnelles, avocats et tout ça, là, dans le sens que c'est assez nouveau que le francophone est éduqué d'une part, et c'est assez nouveau aussi qu'il est sorti des terres agricoles et des usines. Vous savez, il y a 50, 60 ans d'ici, les francophones, on n'a pas accès au pouvoir. Alors, culturellement, on est quand même assez jeune avec le succès, avec le pouvoir, avec l'argent. Alors ça a probablement des répercussions dans nos façons de dealer avec ces enjeux-là comme société, comme individu dans la société.
Historiquement, alors, peut-être aussi.
Historiquement
à force
aussi.
De se faire dire qu'on a perdu quelques batailles, on n'est juste plus capable d'en perdre d'autres.
Ouais, peut-être. Ou à force de se faire dire aussi par nos grands-parents et nos parents qu'ils étaient nés pour des petits pains, ben, ça a eu un impact sur nos propres générations.
Est-ce qu'on est encore là-dedans?
Mais ça va changer.
Corbeille à pain? Est-ce qu'on est encore dans la corbeille à pain?
Ça va changer parce que j'ai l'impression que moi, ma mère me disait pas nécessairement qu'on était nés pour un petit pain, mais ma mère me disait quand j'étais jeune, c'était important de travailler. Ouais. Moi, j'ai dit à mes jeunes, c'est important d'aimer ce que tu fais. Ouais. Vous voyez, donc c'est des messages que les parents portent aux enfants qui sont bien différents d'une génération à l'autre. T'sais. Alors
aujourd'hui,
je regarde mes jeunes, moi, là, les autres travailler, faire de l'argent, c'est correct, là, mais ce qu'ils veulent, eux autres, c'est triper, avoir du fun et aller au travail pour avoir se réaliser, s'accomplir. Moi, c'était pas ça, toi? C'était faire de l'argent. Moi, quand j'étais jeune, fallait que je gagne ma vie. Là. Fallait que je mange, fallait que je m'achète une voiture, fallait que je m'achète des meubles. Les jeunes aujourd'hui, c'est le dernier de leurs soucis, une voiture. Là, c'est...
Okay. Mais je pense que ça dépend de la personnalité.
Il va falloir que je m'en mêle un petit peu.
T'es le jeune!
Tantôt, on parlait d'argent, d'accès à l'argent. Un autre plus, on a parlé d'entrepreneur, d'intrapreneur. On n'a pas encore parlé de repreneur.
Tout à fait.
Je pense que c'est une des pistes de solution. Oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui laissent tomber après quelques mois. Mais au bout de la ligne, il y a aussi une gamme d'entrepreneurs qui peuvent être les repreneurs, qui devraient avoir accès à plus d'argent. Mais c'est beaucoup plus difficile de financer une entreprise qui part de zéro qu'une entreprise qui a déjà une base solide, même s'il y a un prix d'achat à débourser. Donc, je pense qu'il y a toute une réflexion à faire sur le fait qu'on devrait miser un petit peu plus aussi sur le repreneuriat. J'en suis un, ma deuxième entreprise, ça en est une. Puis au bout de la ligne, c'est
donc,
beaucoup plus facile.
Donc, une entreprise que tu as achetée.
Exactement. Mmh. Avec des partenaires, parce que ça, on pourra en parler tantôt, mais la complémentarité est très, très, très importante dans une équipe.
Ouais.
Mais au bout de la ligne, avoir accès à du capital, c'est important. On a du travail à faire au Québec parce qu'on n'est vraiment pas Aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup plus de capital de risque.
C'est ça.
Mais on doit regarder les entreprises qui existent aussi, puis de quelle façon nos jeunes peuvent avoir accès à du capital pour pouvoir les acheter puis continuer ces business-là.
Surtout au Québec, il y en a beaucoup qui vont, d'entreprises, ouais. On le sait, là, ouais. qui vont devoir fermer.
On parle de 38 000 entreprises qui vont fermer leurs portes d'ici à 2022.
Qui n'ont pas de relève.
Et c'est particulièrement dans les régions, hein. Il faut quand même le mentionner. D'où l'importance de mentionner quand même certaines actions qui ont été faites par des groupes, hein, des groupes de gens. Et pour revenir sur ce que vous disiez,
Frédéric.
Frédéric. Je l'appelle François, je sais pas pourquoi, mais Frédéric. Ce que disait Frédéric, c'est que moi, je parle beaucoup, et je pense toi aussi, Serge, sur le reprenariat, parce que on a toujours tendance à se dire, ben, j'ai l'idée du siècle, j'ai envie de partir ma business comme si je devenais le patron de ma vie après.
Parce que c'est ça qu'on glorifie, Daniel.
Mais oui,
c'est ça qu'on met de l'avant.
Mais je sais, et il faut que ça arrête, il faut qu'on dise les vraies choses. C'est que ça prend une certaine, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une course de fond et non une course de vitesse. Donc, regardez les entreprises qui aujourd'hui ont besoin de relève, et peut-être que toi tout seul, tu ne pourras pas la reprendre. Mais avec un groupe d'autres personnes, d'essayer de trouver le moyen de sauver des emplois, de sauver une clientèle et d'exporter aussi.
Ouais. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va demander à notre public, est-ce que vous pensez que vous avez la fibre entrepreneuriale? Avez-vous l'intention de vous partir une business bientôt? Est-ce que c'est dans vos projets? Hier, je vous demandais quelle est la part qu'occupe le travail dans votre vie. C'est sûr que si vous voulez moins travailler, moi, je vous dirais d'entrée de jeu, allez peut-être pas en affaires. C'est sûr que si tu comptes tes heures, il y a peut-être d'autres choses, tu sais. Mais si t'as envie de te relever les manches, c'est drôle parce qu'hier, avec Pierre Lavoie, je co-animais les bourses Pierre Péladeau. Depuis 20 ans, les bourses Pierre Péladeau ont donné à peu près 2 millions de dollars à des jeunes entreprises. Ce sont des jeunes qui sont à l'université puis qui ont des projets étudiants, mais qui sont viables éventuellement. Et hier, on a remis 250 000 dollars à quatre nouvelles, à des jeunes là qui vont être en affaires, qui sont en affaires en fait, là, mais qui sont souvent au stade, t'adorerais ça Serge, au stade vraiment là, de développement. Puis et c'est fascinant de les voir. Il y a des beaux projets là-dedans, vraiment, vraiment. Alors oui, ça prend du... Parce que le love money, là, on va se le dire. Je sais pas vous, là, mais avez-vous des parents, des proches qui vous aiment tellement, là, qui vont vous passer du cash? Je trouve ça un peu galvaudé, moi, le love money. Mais vous me direz, alors c'est un peu tout ça, notre discussion. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Vous pouvez nous joindre sans frais en faisant le 1-866-790-9850. Et dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850. Alors, je vous demande ce matin, est-ce que vous pensez que vous avez la fibre entrepreneuriale? Bonjour, Alexandre.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous l'avez?
Oui, nous, dans le fond, pour faire une histoire courte, mes parents ont acheté une entreprise en 1995 dans le nettoyage à sec. Moi, j'ai pris, dans le fond, la relève avec ma mère, ça fait déjà une dizaine d'années. Ça fait à peu près 12 ans que je suis là-dedans. Et je vous dirais qu'à des fois, je me repose des questions à est-ce qu'on va continuer ou si on va arrêter en cause de la main-d'œuvre.
Ah, c'est dur de recruter des gens. Ouais.
Ouais, mais écoutez, nous, c'est le nettoyage à sec, hein, tout qui est dry clean, là, des vêtements. Alors, trouver du monde qui sont spécialisés pour les machines que nous avons, soit des presses manuelles ou des machines à nettoyer. Faut trouver quelqu'un qui va être capable de comprendre la technologie en arrière de ça. Et aussi les fibres des vêtements. C'est beau dire on nettoie, mais il faut connaître un peu les vêtements. Et c'est assez dur de trouver de la main-d'œuvre dans ce domaine-là.
Et vous payez combien?
Nous, en ce moment, on donne environ 13$, puis on a de la misère à trouver du monde. Fait que là, on est en train de penser à augmenter peut-être le salaire pour pouvoir trouver quelqu'un, mais c'est pas facile. Moi, j'ai 28 ans, puis j'essaye de développer des nouveaux services dans l'entreprise, développer ça pour grossir, mais tu peux pas grossir si t'as pas d'employés en arrière de toi pour continuer à avancer. Fait qu'on est un petit peu, j'étais un petit peu comme sur le neutre, là, à cause de ça, de la main-d'œuvre surtout, là.
Oui, c'est sûr qu'à 13 $ de l'heure, vous serez pas forcément le premier choix. Le 15 $ est en train de devenir la nouvelle référence. Puis il y a tout l'autre question. Merci, Alexandre, parce que c'est très pertinent ce que vous amenez. Serge Beauchemin, peut-être là-dessus. Puis Daniel Henkel et Frédéric, sur la notion d'employé, là. Comment tu fais pour recruter du monde? C'est un problème en ce moment. On le dit, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis dans certains secteurs spécialisés, mais pas tant. Quand même, j'écoute Alexandre, c'est pas de la haute technologie. Il faut juste être un peu au courant. Tu peux former tes employés, mais ça reste des jobs à 13 $ de l'heure. Oui, ça, c'est Serge, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus.
Mais c'est ça, c'est certain que c'est un problème complexe. Il n'y a pas de solution miracle à ce problème-là. Et ça, on va le traverser à chaque fois que l'offre et la demande sont en équilibre ou l'inverse. Là. Dans ce cas-ci, on a quasiment un déséquilibre. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, de demandeurs d'emploi. Donc, dans un marché comme ça, à la bourse, quand il y a plus de demandes pour les offres, ben forcément, les prix vont monter. Alors, c'est exactement ce qui se passe. Les gens veulent des taux horaires plus élevés parce qu'ils ont le choix de travailler. Quand tu n'as pas le choix, ben, tu prends ce qu'il y a. Et ce qui n'est pas le cas actuellement, il y a tellement d'offres d'emploi à gauche et à droite qu'on va, on va prendre ce qui est le plus payant partout.
Là. Mais ce qu'il nous dit, Alexandre, là, il dit chaud. Neutre. Une entreprise au neutre, c'est une entreprise qui recule. Et là, ils songent à 28 ans à sortir de ça. À se dire, ben, peut-être que finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas le fun tant que ça. Frédéric?
Dans notre entreprise, on a le même défi dans les soins, donc préposés aux bénéficiaires, infirmières dans les CHSLD. C'est un problème qui est criant. Puis on est même en ce moment à regarder à l'international avec des agences pour voir s'il n'y a pas d'autres pays francophones où est-ce qu'il y aurait de la main-d'œuvre qu'on peut faire immigrer. Donc, comme vous disiez, le problème est complexe. Les solutions, il y en a. Parfois, c'est coûteux. Parfois, il y a peut-être des solutions qui pourraient être sur notre territoire puis qui seraient beaucoup plus simples. On n'a pas toute la réponse, mais c'est un enjeu criant.
Daniel,
oui, mais c'est un enjeu qui dure depuis plus de 10 ans et aujourd'hui nous frappe de plein fouet.
Ouais.
Et pourquoi je le mentionne? Parce qu'il faut vraiment qu'on commence à parler des choses en amont avant qu'ils nous frappent de plein fouet. Je reviens d'un endroit où j'ai donné une conférence et la ville, le village, en fin de compte, est en train de mourir parce qu'il y avait un médecin. Mais
Sur le Québec?
Oui. Albanel. Donc, le médecin est parti à la retraite, mais ils n'ont pas préparé la sortie. Donc, la pharmacie va peut-être fermer. Il y a des solutions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des solutions, comme tu viens de dire, Frédéric. Et puis Serge, c'est comment est-ce qu'on se regroupe? Je prends l'exemple d'Alex.
Ouais.
L'exemple d'Alex, c'est que dans son industrie, il doit y avoir une organisation ou une association. Ils doivent aujourd'hui être dans l'action. Ils doivent se regrouper pour dire ça prend des formations. Ça prend une formation. Il faut commencer à former les gens.
Ben oui, c'est
ça. Vous savez, c'est pas une question de $15 de l'heure. Moi, j'y crois pas. Je veux bien qu'on paye les gens correctement. Mais ça veut pas dire que cette personne va rester. Mmh. Ça veut dire que cette personne, demain matin, on lui donne $20, elle va partir. Donc, ça prend des gens. Mmh. Mais oui, ça prend des gens à qui on va peut-être donner un peu plus de responsabilité. Vous savez, tout à l'heure, je parlais d'intrapreneur.
Ouais.
Ben, c'est ça. C'est dans ma compagnie, je vais peut-être prendre quelqu'un et même oser lui dire, je vais te former parce qu'on va se regrouper puis on va t'enseigner le tissu, la fibre aussi, ça, ça.
Ouais.
Je vais bien te payer puis je vais peut-être te donner des parts de l'entreprise.
On a Simon, je vous parlais des bourses Pierre Palladeau. Hier, il se trouve que il y avait beaucoup de ces jeunes entrepreneurs qui étaient présents. Il y en a un qui a retenu mon attention. Il faut dire que son produit d'entreprise est particulier. Il vend depuis plusieurs années des champignons forestiers. Vous avez peut-être entendu parler de Morille Québec. Simon-Pierre Murdoch est président directeur général de cette entreprise qui a été créé en 2008. L'usine est à Chicoutimi, mais ils ont aussi un entrepôt ici à Montréal. Ils engagent une trentaine d'employés. Il y a 32 ans. Il a parti ça dans sa chambre, au grand désespoir de sa mère. Je vous rappelle que c'était des champignons. Bonjour, Simon-Pierre.
Bon, ça doit détruire des maisons pour moins que ça.
On s'est vu hier soir. Écoute, c'est vrai que ton entreprise est c'est amusant parce que toi, t'es vraiment l'exemple du jeune qui a eu son histoire pétée de d'entreprise, puis t'as fait ça dans ta chambre. Raconte-nous un peu le début, puis au grand désespoir de ta maman qui a dit « ça serait le fun que tes champignons éventuellement sortent de ta chambre
». Effectivement, ma mère avait vraiment hâte que je parte de ma chambre pour pouvoir déménager mon entreprise. Quand j'ai commencé en 2008, à ce moment-là, j'étais infirmier à l'hôpital, je travaillais aux urgences, je suis fini. Puis, ça faisait quelques années que j'étais là-bas, puis j'ai toujours été inspiré à vouloir créer des choses. J'étais un créatif dans l'âme, puis mon grand-père était entrepreneur. Puis, quand j'étais jeune, ma grand-mère me racontait l'histoire de mon grand-père qui était entrepreneur dans le bois, qui faisait de la drave, qui sortait les 2x4, qui faisait affaire avec Bombardier pour les B12, pour sortir de ça. Puis, ça m'inspirait à vouloir créer des choses. Puis, un jour, je marchais en forêt, puis je tombais sur des tales de champignons, puis je me suis dit « wow ». Je pourrais peut-être les cueillir puis commencer à les vendre. Fait que j'ai commencé comme ça, puis j'ai décidé de lâcher mon travail à l'hôpital là, pour partir avec zéro. Puis j'ai converti ma chambre à coucher, mon garde-robe en entrepôt de champignons.
Non, mais sérieux, Simon, ta chambre était un entrepôt à champignons forestiers?
Absolument. J'avais une chambre genre de 2,5, puis je faisais la comptabilité, j'avais mon étagère avec mes champignons séchés, le garage était mon aire d'expédition, puis... C'est drôle parce que j'ai été forcé de partir parce que le conseil municipal est venu me rencontrer parce que les 53 pieds de IGA se reculaient dans les rues.
Oh my God.
Avec, pour venir chercher mes palettes dans le garage chez mes parents.
Ah oui, ça, les voisins, ils aiment moins ça.
Ça devait être très humide
bon
aussi.
Ouais.
Non, exactement. Mais là, et puis là, aujourd'hui, il faut quand même le dire, Maurie, Québec, vous avez toutes sortes de contrats avec des grandes chaînes alimentaires. C'est une entreprise qui fonctionne bien, Simon-Pierre?
Oui, ça va très bien. On gère la croissance. C'est que ça, dans le secteur des fruits et légumes, nous, c'est vraiment le volet sauvage qu'on essaye de développer. C'est un secteur qui vit une croissance à travers l'ensemble de toutes les industries. Donc, on a beaucoup de plaisir à le faire, puis comme depuis le début, j'ai toujours dit, moi, je veux pas être le plus gros, je veux juste être le meilleur dans ce que je fais, bien faire les choses, et on est notamment chez Sobeys, on a un contrat national avec l'IGA, on fait de la marque privée aussi avec d'autres chaînes pour le Québec puis l'Ontario, puis honnêtement, ça va bien, nos employés sont heureux, nous, on a du plaisir à faire ça, on fait des sous qu'on réinvestit dans recherche et développement, donc disons que développer le côté sauvage, la cuisine de la forêt pour se réapproprier un peu notre identité culinaire au Québec. Pour moi, c'est un plaisir, là. C'est une mission personnelle que je me suis fixée.
Ah, je trouve que c'est vraiment un beau projet d'entreprise, puis ça marche, c'est viable. C'est mon Pierre Murdoch, j'aimerais que tu dises aux jeunes et aux moins jeunes, à tous ceux, parce que moi, vraiment, là, j'encourage tout le monde qui a une bonne idée puis qui a envie de le faire, de la mettre en pratique, cette bonne idée. Peu importe l'âge, on y va, on se lance. Mais qu'est-ce que tu dis donc à tous ceux qui pensent, qui ont peut-être quelque chose, là, qui ont peut-être un début de projet entrepreneurial?
Ben, comme je disais hier soir, si tout le monde dit que votre idée est mauvaise, à mon avis, c'est qu'il y a un soupçon d'avoir une très bonne idée, de se fier à son instinct, à son ADN. Le côté entrepreneur, c'est vraiment dans nos gènes. Puis de croire en son idée, mais surtout de se fier à son instinct. Et si les gens nous disent que c'est une très mauvaise idée, probablement parce que c'est une très bonne idée.
Mais pourquoi tu dis ça? Parce que les gens sont nés pour nous décourager? C'est quoi que tu...
Ils ont peur.
Bien, souvent, quand on démarre un projet, on a beaucoup d'idées. Les gens ont tendance à faire un peu les gérants d'estrade et à nous dire, ben non, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais faire ça de telle façon. As-tu pensé à ci, à ça? Mais avoir des idées, c'est facile, mais tout est dans l'exécution. Puis je pense que la personne qui a une idée à faire, c'est elle à aller valider s'il y a un marché pour ça. Mais de se fier à son instinct plus qu'à tous les gens autour qui vont essayer de lui dire que c'est une bonne, une moyenne, une très mauvaise idée.
Ouais. L'importance des mentors, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu en as des mentors aujourd'hui?
Ah, tout à fait. J'ai des mentors qui m'ont aidé depuis le début là, à me conseiller, comment me diriger, comment prendre des bonnes des décisions, des réflexions. Puis c'est extrêmement important. Là. Il y a des beaux réseaux de mentors au Québec. Je pense que l'entrepreneuriat est bouillonnant là, avec l'émission justement dans l'œil du dragon et d'autres mouvements qui se font. Puis c'est le fun de voir ça. Mais oui, le mentorat, c'est vraiment important. Moi, j'ai plusieurs mentors. Là. J'ai peut-être une vingtaine, je dirais. Là.
Wow.
Je les utilise au maximum. Là. C'est clair.
C'est très bien. Hey, Simon-Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Simon-Pierre Murdoch, qui est président directeur général de Maurie Québec, si vous en voyez dans une grande surface alimentaire, ben dites-vous qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans, Québécois. Non, mais il faut s'encourager, là.
Ouais, certain. Bravo, là, Simon-Pierre, bravo.
Bravo, franchement, c'est un beau projet. Je voulais, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. On va s'arrêter ici, très courte pause. Il y a plein de gens qui veulent intervenir. Regardez ça, nos lignes sont pleines. On n'a pas la fibre entrepreneuriale au Québec. C'est fabuleux de voir ça ce matin. On vous parle tout de suite après la pause. Bonjour Gabriel, est-ce que vous pensez avoir la fibre entrepreneuriale?
Au début, je pensais que oui, tu sais, parce que je suis le genre de gars qui va entreprendre beaucoup de choses, qui va entreprendre des activités. Je me suis parti à un groupe de musique. Puis là, depuis 3 ans, en fait, j'ai ma compagnie de ménage. Je fais plusieurs choses. Je fais de la réparation aussi. Puis j'ai commencé à faire des contrats pour une compagnie un peu plus établie de lavage de vitres.
Uh-huh.
Mais sauf que là, à le voir aller, lui, ça fait 15 ans qu'il fait ça, puis il travaille. Moi, ça fait 3 ans que j'arrête presque pas, tu sais, parce qu'on veut toujours que ça grossisse. Puis là, ben depuis un an, moi, j'ai rencontré une prof au primaire. Moi, c'était un de mes premiers choix de carrière prof au secondaire, puis je me rends compte que pour avoir une belle qualité de vie, ben il faut pas seulement travailler tout le temps, puis... Là, j'ai pris la décision là de retourner aux études, puis je pense que c'est la bonne chose à faire parce que déjà après 3 ans, je me sens complètement épuisé. Là, j'ai juste 26 ans, puis j'ai l'impression d'avoir fait 10 ans en dedans de 3, là, tu sais.
Et vous retournez aux études en quoi?
En enseignement aux mathématiques, au secondaire en mathématiques, pardon.
Ah, ben c'est bien, bravo, c'est complètement autre chose. Merci beaucoup, Gabriel, bonne chance. Ali, bonjour.
Oui, salut. Moi, dans le fond, j'étais employé à temps plein et puis j'ai décidé de faire le saut et puis de lancer ma propre entreprise après quelques années parce que je me sentais complètement misérable dans mon entreprise. Pas parce que j'aimais pas le domaine, mais vraiment parce que je sentais que j'avais pas le contrôle, je pouvais pas prendre de décision, il y avait trop de paliers décisionnels, j'avais une vision, je voulais l'appliquer, c'était long. Donc, c'est vraiment, honnêtement, j'ai senti que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'avais pas vraiment le choix de le faire, là. C'était la seule issue pour moi pour que je sois heureux dans ce que je fais. Et puis, le point que je voulais amener, je pense, parce que je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et puis de personnes qui aimeraient se lancer, je pense qu'il y a un branding trop sexy autour de l'entrepreneuriat en ce moment. Et puis qu'il n'y a pas une éducation réelle autour de c'est quoi l'entrepreneuriat. Moi, j'adore dormir, OK? Moi, là, dormir le matin, il y a rien de plus cher pour moi que ça. Mais ça, je me lève à tous les jours à 5 heures du matin, puis j'ai le sourire sur les lèvres, mais je sais que ça serait impossible de faire ça si je n'aimais pas ce que je faisais. Ouais. Et puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je veux dire qu'on met trop de l'avant les success stories qui se passent sur une courte période de temps. Ça fait en sorte que les personnes veulent avoir du succès trop rapidement. Ils se découragent plus vite. Je veux dire, moi, j'ai commencé, là. Moi, j'ai une entreprise en production photo, vidéo, publicitaire. Et puis, tu sais, le premier client que j'ai eu, là, c'était un client national. Je le faisais dans le salon chez mes parents, là. J'ai bâti un petit studio, puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis, tu sais, j'ai fait les étapes une à la fois. Je suis pas allé chercher des prêts incroyables, puis je suis pas allé chercher un investisseur en partant parce que, tu sais, c'est beaucoup ces histoires-là qu'on entend, mais on oublie que, c'est partir d'une entreprise, c'est step by step, c'est une étape à la fois, puis ça n'arrive pas du jour au lendemain.
Effectivement. Merci, Ali, pour toutes ces sages paroles. Effectivement. Bonjour, Jacques.
Oui, bonjour.
Avez-vous la fibre, vous pensez, entrepreneuriale?
Moi, je l'ai, c'est sûr et certain.
Parce que?
C'est sûr et certain. Parce que, ben moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai mon entreprise. Ça fait bientôt 7 ans. Mm-hmm. Et j'ai un talent exceptionnel, c'est que je suis spécialiste en prospection téléphonique. Je forme des équipes de vente et des dirigeants d'entreprise à aller chercher des nouveaux clients. Et au Québec, on n'est pas beaucoup. Et moi, je suis conférencier, je fais de la formation en entreprise, puis je peux vous dire que c'est pas facile. C'est pas évident.
De se lancer en affaires ou qu'est-ce qui est pas évident, Jacques?
Ben c'est pas évident de se faire connaître parce que moi je vous ai tous contactés de différentes façons, Madame Inca, Monsieur Beauchemin, même toi Isabelle. En fait, c'est que bon, c'est beau d'avoir un talent, c'est beau d'essayer de faire une différence, d'aider les gens, c'est ça mon but premier. Mm-hmm. Mais de se faire connaître, c'est un autre paire de manches. Et ça, malgré tous les efforts, des fois le timing est pas là, des fois c'est plus compliqué. Je suis chanceux parce que j'ai eu des belles entreprises qui me font confiance, puis les gens sont ultra contents de ce que je peux leur apporter parce qu'on parle de confiance. On parle de connecter, de faire la business à haut niveau. Là, je parle pas de faire des centres d'appel. Moi, c'est pas à ce niveau-là que j'ai mon entreprise. Mais je peux vous dire que les deux derniers mois étaient extrêmement tranquilles. Et ça l'affecte la vie familiale, ça l'affecte la prise de décision. J'ai bien beau faire du hot yoga à chaque jour pour essayer de me mettre dans mon cœur. Mais la réalité, c'est que...
il y a des bourrasques, ouais.
Il y a des bourrasques, il y a des bons encartes, puis c'est de rester solide, puis essayer d'être focusé, tout ça, mais c'est dommage parce que, bon, des fois, moi, j'en ai un mentor, c'est Pierre Nadeau, qui est une sommité, en fait, de branding à Montréal. Pierre me donne beaucoup de conseils, mais j'ai été chercher. J'ai pas nécessairement reçu ce que je m'attendais de gens qui sont déjà impliqués. Puis je peux comprendre aussi là que les gens, vous recevez beaucoup de demandes.
Mais j'allais le dire, Jacques, parce que je comprends, vous faites du coaching. Vous faites du coaching, c'est ça?
Quel genre? Ben, ouais. De la formation en entreprise. Ouais.
C'est ça. Mais là, c'est ça le problème. T'sais, à un moment donné, si tu es dans un marché où il y a vraiment beaucoup d'offres, ben c'est ça. Donc, il faut que tu sois... Il faut que tu sois extrêmement perspicace, puis il faut que la façon dont tu abordes les choses, ça soit différent. Tu sais, donc, mais bon, hey, Jacques, faut pas lâcher en tout cas. Bonne chance, faut se le dire. Tu sais, des fois, tu as des bouts plus tranquilles, comme tu dis, mais faut juste. Et là, c'est là où c'est intéressant parce que après la pause, je vais demander à mes invités et aussi aux entrepreneurs que vous êtes ou qui ont peut-être la fibre. Comment on arrive à passer à travers les bourrasques? Parce que c'est sûr, là, on dit, là, on a beaucoup mythifié la profession d'entrepreneur, mais Il y a beaucoup aussi de vent en contraire. Et comment tu passes à travers? Est-ce que c'est pour ça qu'on décroche, nous, comme entrepreneurs au Québec? C'est parce qu'à un moment donné, devant l'adversité, on fait « Oh, ben là, d'abord, regarde, trop dur. » Est-ce que c'est ça? Comment passer à travers? Puis c'est bon, tu sais, le défi de passer à travers, que ce soit en entreprise ou dans la vie en général, toujours bon d'avoir des conseils là-dessus. 514-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Bonjour, Michel. Avez-vous la fibre entrepreneuriale, vous?
Je crois que oui, effectivement.
Oh, beaucoup. Vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr.
Oui, en fait, ce qui est ma réserve, en fait, c'est que tous les projets fantastiques qui ont révolutionné notre monde,
ouais.
Par exemple, les ordinateurs,
ouais.
Ou encore les gens de chez Google, Facebook, ce sont tous des gens qui, par même leur prof d'université, lorsqu'ils ont abandonné, les professeurs ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient faire.
Ouais.
Pourtant, ce sont des leaders mondiaux. Pour ne pas dire, et ils ont amené des technologies qui ont changé nos modes de vie.
Mm-hmm.
Or, aujourd'hui, dans les domaines de haute technologie, moi, je suis plus dans les nanotechnologies,
ouais.
Je présente des différents projets, différentes avenues, puis c'est à peu près la même situation où est-ce qu'on nous dit c'est impossible, alors que, au contraire, on le voit très bien, c'est parfaitement réalisable. Si vous permettez, j'en nomme un rapidement. Alors, il y a une technologie, un concept qui a été développé qui sert pas seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais les éliminer, les capter dans l'air et produire du graphène, qui est la star des nanotechnologies en ce moment, qui va révolutionner notre monde. Alors, c'est un projet qui utilise l'hydroélectricité. On a tout ce qu'il faut au Québec pour à la fois, non pas à commencer à augmenter à réduire l'augmentation des gaz à effet de serre, mais les éliminer dans l'air, carrément enlever le carbone de l'air,
mm-hmm.
et créer du graphène qui vaut 700$ le gramme.
Mm-hmm.
On pourrait faire... Donc, c'est un projet extrêmement porteur économiquement.
Mais là, ça prend du financement pour ça, là.
Et c'est là le bas.
Ben, c'est ça. C'est là le bas qui blesse.
Et c'est pas compliqué quand même. C'est pas coûteux à réaliser ce projet-là par rapport au potentiel.
Fait que là, vous cherchez du capital de risque, si je comprends bien, non?
Même pas.
Non?
Ça prend même pas ça. Ça prend simplement un peu de support. On a un nouveau gouvernement qui, je l'espère, dans le discours de M. Legault, m'a renversé en me disant « J'espère qu'on va avoir une écoute. » Je vous cacherai pas que j'ai envoyé un courriel à M. Bonnardel, à notre premier ministre. Est-ce que maintenant, ça sera reçu?
Ben lâchez pas. Merci, Michel. Merci beaucoup. Je demandais tout à l'heure, bon, comment on arrive à passer à travers les bourrasques? Bon, là, Michel vient de nous ramener au nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, le financement. C'est vrai qu'on a des belles histoires. Serge Beauchemin a parti sa business avec 40 piastres à 22 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait possible encore, Serge?
Ben certainement.
Peut-être,
parce que moi, c'est une business de service, alors forcément.
C'est ça. Mais quand on est, justement, ça, c'est intéressant, quand on est dans le service, ça va. Tu peux t'arranger. Tant que tu n'as pas trop de frais fixes au départ, c'est pas mal. Mais quand tu veux faire de l'entreprise industrielle, quand on est dans l'industrie, quand ça prend, oui, une chaîne de montage, quand ça te prend des entrepôts avec des équipements, là, on parlait de nanotechnologie, là, ça te prend un peu plus de cash, ça te prend de l'argent. Et c'est là où on en parlait, là, des fois, ben si tu n'as pas de client au début, Frédéric, j'aimerais t'entendre là-dessus. Frédéric Gariepy, qui est président du conseil d'administration du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Les jeunes chambres peuvent aider, d'ailleurs, les entrepreneurs à s'installer. Il y a des régions qui sont extrêmement... qui attirent, qui savent attirer.
Effectivement. Il y a des moyens qui existent déjà. Entre autres, le regroupement des jeunes chambres de commerce fait... immigrants entrepreneurs en région. Donc, on va avec des entrepreneurs dans plusieurs régions du Québec. On fait la caravane régionale.
Ouais.
Donc, ça, pour se faire connaître, pour avoir un réseau de contacts, c'est pas un problème. Il y a même d'autres choses dans ma région où est-ce que j'ai été administrateur d'une chambre de commerce au tout début.
Mm-hmm.
Il y a parti au mois d'octobre cette année un incubateur d'entreprise dans le domaine industriel.
Ouais.
Parce que la chaîne de valeur à Terrebonne est très industrielle. Donc, on a participé au développement d'un incubateur qui met à ressources des espaces industriels, des ateliers de travail et des bureaux. Donc, il existe des solutions. Après ça, il faut savoir quelle est la motivation de l'individu. Y a-t-il la détermination et tout? Donc, il y a plusieurs...
Mais j'aimerais juste ajouter quelque
secondes,
chose.
10 secondes, il nous reste 10.
J'aimerais juste dire une chose, c'est que oui, on a besoin de financement, mais à la base, on a besoin surtout que les citoyens se rapprochent des entrepreneurs et qu'on soit dans l'achat local et qu'on comprenne que ça prenne ça.
5 secondes.
Go, go, go! Faut essayer, faut tenter sa chance, il faut se lancer, puis assumer les risques qui viennent avec.
Exactement.
Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Mon Dieu qu'on aime ça parler de ça. Trouvez pas que c'est inspirant?
C'est inspirant.
Ça te donne de l'énergie. Puis tu te dis, bon, ben on est moins tout seul.
Absolument.
Hein, avec nos petites business.
Puis continuer de se dire qu'on doit être fier de qui on est en tant qu'entrepreneur.
Exactement. Merci beaucoup à vous trois. Merci à tout le monde. On se retrouve après les nouvelles.